Bonjour à tous. Nous nous étions pas vus. Nous avons plaisir à être là, à être de retour. Voilà, ce matin, nous allons faire une lecture d'un texte bien connu dans Luc, chapitre 15, le texte qui nous parle de l'enfant prodigue. Luc 15, lecture à compter du verset 11. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. » Il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras. » parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il est perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Alors, je ne suis pas très original en choisissant ce texte. Francine l'a pris il n'y a pas très longtemps et d'autres. Mais c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous. Et c'est assez fort d'ailleurs. C'est ce qui m'a valu de faire une expérience importante il y a quelques semaines de cela. Avant de revenir à ce texte de référence du fils prodigue, j'aimerais que deux versets s'affichent. D'abord, le verset de Luc 15, le verset 7 de Luc 15. De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est la conclusion de Jésus après avoir rapporté l'histoire de la centième brebis perdue et retrouvée. Et puis un autre verset, toujours dans le même esprit, Luc 15, verset 10. Ça, c'est en conclusion de l'histoire de la drachme perdue et retrouvée. C'est Jésus qui parle. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et ce matin, ce dont je voudrais voir avec vous, vous entretenir, c'est de la repentance. Ok ? Je voudrais m'entretenir avec vous de la repentance. Jésus a des paroles sévères quand il dit, enfin on les trouve sévères quand il dit, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. » C'est vrai que c'était à l'adresse de ces personnes venues le questionner au sujet de ces Galiléens dont Pilate avait mêlé leur sang à celui de leur sacrifice, ou encore de ces 18 personnes qui moururent écrasées par l'effondrement de la tour de Siloé. Et Jésus de dire à ces personnes, croyez-vous, parlant de ces Galiléens et de ces 18 autres personnes mortes écrasées, croyez-vous que ces personnes aient été plus coupables que les autres? C'est une exhortation pour nous à ne pas juger l'autre, d'accord? Mais bien à nous juger nous-mêmes, à s'occuper de soi et de nous rappeler la nécessité qu'il y a à nous repentir. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Alors, définition, si vous voulez bien, de la repentance, c'est la tristesse, la honte plus ou moins intense que l'on éprouve après avoir péché, et la douleur d'avoir offensé Dieu. C'est bien, mais c'est incomplet. C'est un premier pas, mais il est insuffisant. La repentance, c'est une souffrance intérieure produite par la conviction d'avoir mal agi avec le désir de ne plus recommencer. La repentance a pour point de départ la conviction de péché et doit être suivie du profond désir de ne plus recommencer. C'est mieux, et là nous sommes sur la bonne voie. Il y a d'ailleurs similitude avec la conversion métanoïa en grec, qui veut dire littéralement changement de mentalité, d'intention. Il faut savoir que la repentance affecte tout l'être. Elle est une souffrance. Dieu seul peut enlever cette souffrance en nous pardonnant généreusement. Faut-il encore que nous le lui demandions? Est-il besoin de rappeler au passage que l'on ne se confesse pas à un pasteur, à un rabbin, à un prêtre, qu'une de ces personnes, si respectable qu'elle soit, ne sont habilitées à pardonner nos péchés. Le pardon vient de Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. On est d'accord ? On est OK ? Le pardon de nos péchés vient par le ministère qui a été confié au Seigneur Jésus, à Jésus seul, et qui a pour ministère de nous rapprocher de Dieu. N'est-il pas écrit que c'est lui qui a le ministère de la réconciliation ? Le péché a pour effet de nous éloigner de Dieu, toujours. Mais Jésus est venu dans le monde pour ôter le péché des hommes et nous rapprocher de Dieu. Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et nous, entre Dieu et l'homme pécheur et la femme pécheresse. Notre lecture nous montre ce Fils prodigue dans lequel nous pouvons très facilement nous retrouver. Je m'excuse, hein, d'être aussi direct, mais nous pouvons très facilement nous retrouver dans ce cas, puisqu'il est écrit, selon Jacques, que nous bronchons tous de bien des manières. Nous notons que ce Fils prodigue fait partie de la maison du Père. Il n'est pas un étranger, mais il est l'un des fils au même titre que les autres enfants. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Je vais ouvrir une parenthèse, je l'ai déjà fait, mais je le refais avec bonheur. Que de fils et de filles prodigues dans nos familles. Que d'enfants de Dieu rencontrés nous disant la peine qu'ils ont d'avoir un fils ou une fille ou plusieurs qui se sont éloignés de Dieu. C'est notre cas. Eh bien, je dis avec force, ces fils, ces filles prodigues reviendront, car l'histoire de l'enfant prodigue est l'histoire de celui qui revient à la maison du Père. Alléluia ! Vous le croyez ? Je vous invite, si vous êtes dans ce cas, à le croire. Dieu a de la bonté pour les enfants, les petits-enfants égarés de ses enfants. Vous m'avez compris ? Dieu a de la bonté pour les enfants ou petits-enfants de ses enfants. J'ai été frappé par la réflexion qui est faite ici de ce jeune serviteur fait au fils aîné qui s'inquiète de tout ce remue-ménage. Il lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Je trouve ça étonnant qu'il soit en bonne santé, puisque la logique est que quiconque s'adonne au péché et vit dans la débauche, hypothèque son corps. Il ne souille pas seulement son cœur, il ne noircit pas seulement son âme, mais il hypothèque son corps. L'on sait que quelqu'un qui s'adonne à l'alcoolisme détruit des cellules et c'est irréversible. Il y a toujours, pour celui qui s'adonne à la débauche, au péché, des conséquences physiques qui en résultent. Et la parole de Dieu de nous préciser ici qu'il y a de la joie et que ce fils qui revient est en bonne santé. Wow. Parents chrétiens qui êtes bénis de Dieu, qui avaient des enfants prodigues, comme Agnès et moi nous avons un fils prodigue. La bénédiction de Dieu demeure sur chacun de ses enfants, car la bénédiction de Dieu, est-il écrit, et je le crois, peut s'étendre jusqu'à la millième génération. C'est dire combien est grande la bonté de Dieu pour ceux qui lui appartiennent. Et je pense que vous tous ici appartenez au Seigneur Jésus, ce qui est une bonne chose. Incompréhensible amour de Dieu. Je reviens à ce vieux cœur, vieux cantique. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour, amour de Jésus sur la croix. Vaste autant que les océans, profond plus que les mers, ô plus haut que l'azur des cieux, est son amour. Michel le connaît, hein. Les amis Burki aussi connaissent ce vieux cantique. Quel beau cantique! Sa troisième strophe dit, c'est mon privilège ce matin, « Ô le grand amour de Dieu, je proclame avec joie aux pécheurs perdus loin de Dieu le salut par la foi. Et du Christ, nous louerons pour toujours la mort et l'immortel amour. » Je ferme cette parenthèse, mais j'ai eu plaisir à l'ouvrir. La repentance n'est pas l'accumulation de remords ou de regrets qui ferait que n'en pouvant plus, bien, on se décide à demander pardon à Dieu. C'est la volonté qu'il y ait changement et qu'il y ait abandon de notre péché. Le cœur en est affecté. Voyez les 3000 convertis à la seule prédication de Pierre, et je pense que ce texte fait rêver beaucoup de prédicateurs. Hein ? Je ne pense pas qu'il y en ait un parmi nous prêchant la parole qui ait eu 3000 personnes comme auditoire. Ça ne doit pas être quelque chose, hein, quelque chose que d'annoncer la parole à 3000 personnes. Cela fait rêver. Prédication inspirée de Pierre, appuyée de l'action de l'Esprit, puisqu'il est écrit « Ces personnes eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Que ferons-nous ? Comme nous aimerions qu'on vienne nous questionner de cette manière. Que dois-je faire, frère ? Que dois-je faire ? Que ferons-nous ? » Étant rentré en lui-même, le fils prodigue dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Quelle prise de conscience et quelle honnêteté de cœur. Alors, se repentir, c'est quoi ? Ce n'est pas, écoutez-moi bien, ce n'est pas « Excuse-moi, Seigneur ». Jouant des coudes pour me frayer un passage et bousculant une vieille dame, je lui dis tout sourire, « Excusez-moi, chère madame, en cela je fais mal. » En disant ce « Oh, excusez-moi, chère madame, je pense me dédouaner, mais le mal est fait. » Je devrais dire plutôt, je regrette vivement de vous avoir bousculé et de m'effacer pour la laisser passer et ne pas prendre sa place. Nos excusez-nous, ne nous disculpe pas, ne nous innocente pas. Il n'est pas dans la pensée de Dieu de disculper le pécheur ou de l'innocenter. Même si l'on se confond en excuses. L'Éternel Dieu, Dieu le Tout-Puissant, clément, miséricordieux, lent à la colère, plein de bienveillance, et fidèle, qui conserve sa bienveillance jusqu'à la millième génération, qui pardonne la faute, le crime, le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. C'est à ce Dieu-là que nous appartenons. Il n'innocente pas le coupable, il ne disculpe pas. La volonté de Dieu est de nous pardonner, de nous faire grâce mais pour qui se repent, c'est-à-dire reconnaît avoir fait mal, puis le lui confesse avec ce désir de ne plus jamais recommander. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, Dieu pardonne. Le pardon nous est acquis. La nécessité de se repentir demeure aujourd'hui, où la notion du « tout est permis » à court et où l'exercice, entre guillemets, à discerner le bien du mal devient parfois délicat. On entend tellement de choses nous parviennent à nos oreilles, à notre cœur. On se dit, mais est-ce que je fais bien? Et est-ce qu'il fait bien? Est-ce que je suis dans la vérité? La nécessité de se repentir demeure, car le péché n'a cessé d'abonder depuis la faute originelle. Et si nous assistons à une recrudescence du mal, car il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, la surabondante grâce de Dieu est là pour faire face à ce péché, pour tenir bon, marcher à contre-courant du monde. C'est sur cette surabondance de grâce qu'il nous faut nous appuyer, nous reposer, frères et sœurs. La foi, condition essentielle pour accéder au salut, s'accompagne d'une authentique repentance. Le premier message de l'Évangile délivré par Jean le Baptiste, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Message que confirmera le Seigneur Jésus plus tard. « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Paul dit « La bonté de Dieu nous pousse à la repentance, mais que par notre endurcissement et notre cœur impénitent, nous amassons un trésor de colère pour le jour de la colère de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Romains 2, verset 5. Hommes et femmes qui pêchent et qui jugent les autres, sont-ils excusables? Non. Ils sont inexcusables. Notre jeune prodigue ne cherche pas l'excuse. Que fait-il? Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis pas digne, plus digne d'être appelé ton fils. Il ne s'illusionne pas quant à l'état de son cœur. Il n'occulte pas la réalité de sa condition, mais reconnaît et avouera avoir fait mal. C'est un homme déterminé, je me lèverai, j'irai et je lui dirai. Pour en finir avec la question de notre péché qui affecte notre cœur, qui le noircit, qui peut embarrasser nos vies encore, il nous faut être déterminés à ce que cela cesse. Il faut désirer ardemment ne plus pécher et le confesser à Dieu. Ce jeune fait mieux, il associe le ciel. J'ai péché contre le ciel et envers toi. Quelle clairvoyance, quelle justesse. Lorsque l'on fait mal à quelqu'un, lorsque l'on blesse quelqu'un, ou qu'on l'humilie, l'on touche au cœur de Dieu. On attriste le cœur de Dieu. Notre péché attriste le cœur de Dieu et de cela nous devons nous repentir. Le ciel associé, bien on le voit, lorsqu'il est dit il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, c'est dire que lorsqu'un pécheur se repent, lorsqu'un frère, une sœur qui a faibli, qui a péché, et nous pouvons nous retrouver dans ce cas, cela impacte le ciel. Cela a une résonance dans le ciel. La repentance est un acte volontaire, lucide et personnel. C'est un acte décisif. La repentance s'accompagne d'une confession sincère à Dieu de son péché, péché que l'on nomme par son nom. Si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia ! Vous ne dites pas Alléluia ? Réveillez-vous, mes amis. Si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Celui qui cache, dissimule ses transgressions, ne prospère point, entendez bien, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. L'homme prudent est attentif à ses pas, nous dit Proverbe. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité, c'est-à-dire plein de suffisance. Que ce ne soit jamais notre cas d'être suffisant, mais au contraire, que nous soyons prudents et attentifs à nos pas. L'homme prudent est attentif à ses pas, il sait où il met ses pieds et il sait qu'il y a des lieux où il n'a rien à faire. Il y en a qui pensent qu'on peut aller dans tel lieu, qu'on peut sans problème côtoyer. Méfions-nous. Il y a des lieux où nous n'avons rien à faire. Sauf si Dieu nous missionne. Cela peut arriver, mais je puis vous assurer qu'il faut être blindé et rempli de l'esprit. Il y a des lieux où nous n'avons rien à faire. Il y a des choses sur nos écrans de télévision que nous n'avons pas à voir, que nous n'avons pas à regarder. Il faut savoir faire des choix, il faut savoir fermer. Alors il y a diverses raisons pour se repentir. Un, parce que tout homme est déclaré pécheur. Eh bien d'accord. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement, et voilà le verset qui m'a travaillé depuis des semaines, et j'ai fait une expérience profonde, seule Agnès en a connu l'existence. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Amos 4:12. Faut croire que quand ça vous arrive, en pleine figure, et que de surcroît vous faites une expérience comme celle que j'ai faite à la mi-décembre, ou en l'espace d'une seconde, j'ai réellement cru que je passais de l'autre bord, dans les minutes qui suivent, vous avez vite fait de regarder à vous-même, même si vous êtes en pleine activité, en pleine ville, comme cela se trouvait, pour regarder si tout est bien conforme, si tout est bien d'aplomb, si tout est bien clair avec son Créateur, avec son Dieu. Prépare-toi, dit la version rabbinique, à te présenter devant lui. Donc se repentir pour diverses raisons, tout homme est déclaré pécheur. Deuxièmement, parce que la parole de Dieu nous dit que l'on doit être prêt à se présenter devant lui. Et nul ne sait ce que l'heure à venir peut être. Que troisièmement, le retour de Jésus est imminent, et nous le savons. Il n'enlèvera pas ceux sur lesquels la condamnation éternelle demeure. C'est clair. Cette pensée, je viens de le dire, pensée de Dieu, qui me taraude ou qui m'a taraudé, si je me sens concerné, je ne dois pas être le seul dans ce lieu. Pensée de Dieu pour l'édification de l'Église, je le crois car elle n'a pas cessé de me poursuivre cette pensée et j'ai vraiment eu à cœur de la partager avec vous ce matin car j'ai l'intime conviction qu'il y a nécessité pour plusieurs ou pour quelqu'un au moins, à mettre sa vie en règle avec Dieu. Se préparer à rencontrer Dieu, cela veut dire quoi ? Être en état de se présenter devant lui. Avoir un cœur pur, une pensée saine, avoir une vie réglée d'après sa parole, désirer sa venue, être en état de se présenter devant lui, j'ai eu à la pensée ceci. Suis-je en paix avec mes frères ? Suis-je en paix avec moi-même ? Suis-je en paix avec tous ? Y a-t-il là une pierre d'achoppement ? Je ne peux m'empêcher de penser aux paroles relatives à la scène si tu as quelque chose contre ton frère, laisse-la, ton offrande. Avoir le cœur pur, une pensée saine, le cœur pur, ne pas négliger cette vérité que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et qu'il nous faut nous réclamer de son efficace, peut-être plus souvent que nous le faisons, afin que nous soyons purs, afin que ce sang nous lave de toute souillure. Une pensée saine, chaque jour le monde projette sur nous sa souillure, ses crasses. C'est pourquoi chaque jour je me réclamerai de la pensée de l'esprit pour garder une raison saine. Ok ? Être bien dans sa tête, au clair, une pensée saine. Autre point, avoir une vie réglée sur sa parole. La parole de Dieu est-elle un menu à la carte où chacun a le choix, un catalogue d'options, je prends, je ne prends pas, je laisse. La parole de Dieu renferme la pensée de Dieu. C'est un recueil de préceptes. La parole de Dieu, c'est comment Dieu nous voit en toutes choses. Rappelons, s'il le faut, qu'elle vise cette parole. À notre bien-être, à notre sécurité, à notre avenir éternel. Mais vous ne dites pas amen. Elle vise à notre bien-être, à notre sécurité, à notre avenir éternel. La parole de Dieu nous incite à marcher à contre-courant du monde où nous sommes maintenus de par sa volonté avec un témoignage qu'il nous faut rendre. Et puis, désirer sa venue. Nous n'entendons plus beaucoup « Viens Seigneur Jésus, ne tarde plus Maranatha ». Paul disait « Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste, juge, me la donnera en ce jour-là et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Suis-je désireux de sa venue autant que Paul ? Sommes-nous désireux de sa venue ? Pouvons-nous dire tous ensemble « Viens bientôt, Seigneur Jésus » ? Pouvons le dire ? « Viens bientôt, Seigneur Jésus » ? Nous ne pouvons le dire que si nous sommes au clair avec le Seigneur, en état de se présenter devant lui. Prépare-toi à te présenter devant lui. Il n'est pas là, notre frère Rémi, mais il me dit souvent, « Ah, Jean-Louis, qu'est-ce que tu es chic de me regarder. » Vous savez, je viens dans ce culte, non pas pour faire le beau. Je viens dans ce culte avec le désir de rencontrer mon Seigneur et mon Dieu. Et Jean-Marc ne manque jamais l'opportunité de nous rappeler cette opportunité qui est faite, oui, d'avoir contact avec le ciel. Et c'est vrai, ce matin, nous avons contact avec le ciel. Et l'Esprit est à l'œuvre au milieu de nous. Il s'est exprimé d'ailleurs librement. Et cette parole vous a fait du bien. Si demain, Madame et Monsieur Macron m'invitent à l'Élysée, vous n'avez, je suis sûr, mais je suis persuadé, aucun doute là-dessus, à savoir que je soignerai mon extérieur. Ça fait aucun doute. Hein. Vous savez très bien que je n'irai pas en short et en basket, ou dépenaillé, la chemise ouverte, vous savez que... Eh bien, ce matin, nous sommes venus pour rencontrer Dieu. Non, mais vous prenez conscience du privilège qui est le nôtre de rencontrer Dieu. Alors vous me direz, Dieu ne regarde pas à l'extérieur, c'est au cœur qu'il regarde. D'accord. Mais l'un et l'autre vont ensemble. Nécessité de soigner toute sa personne afin, en tout cas c'est ce que je pense moi, afin d'honorer Dieu et d'honorer les frères. Amen. Afin d'honorer Dieu et d'honorer les frères et sœurs. La nécessité d'être présentable ce matin, mon propos de ce matin, c'était « soigne ton cœur ». C'est surtout cela le message important que je voulais laisser. « Prépare-toi à te présenter devant lui. » Peut-être sens-tu toute ta misère comme quelque chose qui monte au-dedans de toi et te met dans l'inquiétude, dans le doute quant à ton salut, et qui te fait poser cette question, là, à l'instant, mais suis-je prêt ? Si nous avons quelques accusations qui nous rattrapent, comme peuvent être rattrapées certaines personnalités publiques connues en ce moment par les diverses révélations plus ou moins honteuses qui nous sont faites par les médias et qui mettent à mal ces personnes. Que disent ces personnes souvent ? Mon avocat s'exprimera au journal de 20h. Hein ? Ou encore même certains, mes avocats se sont saisis de cette affaire, ils feront un point presse dans les jours à venir. C'est ce que l'on entend. Ils se défilent et puis mon avocat, mes avocats, car certains ont le luxe d'avoir plusieurs avocats. Est-il besoin de vous rappeler, frères et sœurs, est-il besoin de vous rappeler que nous avons, nous aussi, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia, comme j'aime ce verset. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, c'est ce que déclare la parole. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Un avocat auprès du Père. Cet avocat désigné d'office par Dieu, n'en cherchez pas un autre, cet avocat désigné d'office par Dieu peut plaider à tout moment. Il est de service 24 heures sur 24 depuis qu'il est remonté dans le ciel et intercède pour nous. Auprès du Père. C'est ce que Irina a rappelé dans sa prière. Prête pour toujours, tu intercèdes. Alléluia. Jésus est le seul que Dieu agrée. Il ne s'est adjoint aucune autre personne, soyons clairs. Il ne s'est adjoint aucune autre personne pour l'aider ou le soulager dans cette tâche. Il est l'unique Fils de Dieu, tout suffisant. Tout-puissant pour s'acquitter de cette tâche d'intercesseur. Et il est notre intercesseur auprès du Père. Et je dis, gloire à son nom, béni soit le Seigneur. Amen. Et c'est sur ce verset de Jésus qui intercède pour nous, qui est avocat auprès du Père, que je mets un terme à mon propos. On se recueille et on prie le Seigneur. Père, merci pour ta parole qui nous instruit, qui nous enseigne. Merci de celle-ci qui nous rappelle que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, en la personne de Jésus. Merci de nous rappeler qu'à tout moment, tu peux nous faire signe de nous présenter devant toi. C'est pourquoi mon propos était ce matin de rappeler que nous avons à soigner notre cœur et à veiller à ce qu'il demeure dans la pureté. Merci Seigneur de ce que la sanctification n'est pas quelque chose d'inaccessible, mais de possible en Christ. Et c'est en lui que nous voulons chacun nous réfugier en cette heure et partir de ce lieu avec l'assurance que si tu reviens, tu nous prendras avec toi dans ton ciel. Amen.